Bonsoir. La Fondation britannique Westminster pour la démocratie formule 15 recommandations à la Commission électorale nationale indépendante sur la machine à voter en vue d'atténuer les risques majeurs de son utilisation. Parmi ces recommandations qui ont été présentées la semaine dernière à Kinshasa, les experts de cette institution demandent notamment à la CENI de désactiver les communications externes via caste SIM Wi-Fi pendant la tenue du scrutin. Ils suggèrent aussi à la CENI de s'assurer de la présence des témoins de tous les partis politiques lors de l'installation des machines à voter dans chaque bureau de vote. Comment analyser ces recommandations? C'est l'objet du débat de ce soir et nous avons dans cette émission François Nzekouye, il est député national de la majorité présidentielle. Il est aussi porte-parole du PPRD. Bonsoir honorable François Nzekouye.
Bonsoir Guy Maté, bonsoir aux auditeurs de Radio Okapi.
John Kolela, député national de l'opposition, il est porte-parole du groupe parlementaire UDPS allié à l'Assemblée nationale. Bonsoir honorable John Kolela.
Bonsoir Guy, bonsoir tous les auditeurs.
Et Jérôme Bonceau, président de la Ligue nationale des élections libres et transparentes, l'inédite en sigle. Il est aussi coordonnateur de la plateforme Agir pour des élections transparentes et apaisées à État en sigle. Bonsoir, monsieur Jérôme Bonceau.
Bonsoir, monsieur Guy. Bonsoir aux honorables François et honorables John Colella.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiookapi.net.
La Fondation britannique Westminster pour la démocratie formule 15 points d'attention à la CENI sur la machine à voter en vue d'atténuer les risques majeurs de son utilisation. C'est la semaine dernière au cours de la cérémonie de présentation d'une étude sur la fonctionnalité de cette machine et ce, à 96 jours de la tenue des élections provinciales législatives et présidentielles du 23 décembre 2018. Des précisions avec Jean-Pierre Elali Ikoko.
Pour Madia Elbien et Newton Brasson, respectivement directeur adjoint et consultant de la Fondation Westminster pour la démocratie, il ne s'agit nullement d'une certification de la machine à voter, mais de résultats d'une étude portant sur sa fonctionnalité. Étude qui propose 15 points clés d'attention ou recommandations à la CENI pour atténuer les risques dont l'impact et la probabilité sont le plus élevés dans l'usage de cet outil. Parmi ces recommandations, les experts demandent à la CENI de désactiver les communications externes comme la carte SIM ou Wi-Fi pendant la tenue du scrutin, limiter le nombre maximum de bulletins autorisés, soit 600 bulletins par machine et par bureau de vote, avec seulement une marge de 10% pour les extras, ce conformément aux normes internationales. Autre recommandation, s'assurer de la présence et de témoins de tous les partis politiques engagés dans la course électorale lors de l'installation des machines dans chaque bureau de vote. En réaction, le vice-président de la CENI, Norbert Basengezi, s'est félicité du travail abattu par les experts. Il a justifié le choix de la machine à voter par les avantages qu'elle procure. Lors du débat, les avis étaient partagés sur les différents points soulevés par les experts.
Merci à vous Jean-Pierre Elali Ikoko. Plus de 10 recommandations sur les 15 formulées par la Fondation Westminster ont déjà été prises en compte selon les rapporteurs de la CENI. Jean-Pierre Kalamba précise que les experts de cette fondation ont examiné la machine à voter pendant 2 mois. On l'écoute au micro de Michel Kifindangoy.
Les Britanniques sont venus et l'idée est venue de l'Église catholique à travers la CENCO qui avait dit parce que les gens ne semblent pas faire confiance, est-ce qu'il ne serait pas bon de certifier la machine? Et dans l'entretemps, à la recherche, les ministres britanniques qui étaient de passage chez nous avaient proposé de prendre en charge ces dossiers et d'envoyer les experts. C'est dans ce cadre-là que ces experts sont venus. Ils ont travaillé plus ou moins 2 à 2 mois et demi, je peux même arrondir à 3, pour examiner toutes les facettes des fonctionnalités de la machine. Je n'entre pas dans les débats de certification, les mots je ne les trouve nulle part dans nos textes de loi. Ils ont examiné la fonctionnalité de la machine, sa capacité, son autonomie en énergie, un peu des facettes, et a formulé des observations qui ont été acceptées par la CENI, qui, sur place, a démontré que de ces 15, plus de 10 sont déjà prises en charge. À titre illustratif, demander qu'on implique les témoins des partis politiques et les observateurs dans les contrôles préalables. Mais même avec les bulletins papier, les bureaux s'ouvrent à 6h du matin en présence des témoins et des observateurs. Donc ce n'est pas une observation nouveauté. Donc, on peut retenir que les Britanniques ont dit que la machine est utilisable, quitte à voir comment prendre en charge certaines de ces 15 recommandations. Je vous ai dit que plus ou moins 10 étaient déjà rencontrées. La preuve est que sur place, notre secrétaire exécutif avait expliqué ça devant les Blancs, les Noirs, les partis politiques, la société civile.
François Nzekouyé, député national de la majorité présidentielle et aussi porte-parole du PPRD, et cette fondation britannique formule 15 recommandations à la CENI, notamment celle de désactiver les communications externes via carte SIM et Wi-Fi pendant la tenue de l'opération électorale. Comment vous réagissez à cette démarche?
D'abord, nous devons rappeler les dispositions de la Constitution qui confie à la Commission électorale indépendante la mission d'assurer la régularité du processus électoral et référendaire. Et en tant qu'institution d'appui à la démocratie, cette commission est appelée à jouer le rôle principal dans l'organisation des élections libres, démocratiques, transparentes et dans la consolidation de l'état de droit en RDC. Ça veut dire que la CENI n'a pas comme rôle de tripatouiller les élections, encore moins d'amener des solutions qui ne vont pas consolider la paix. Et donc, si la CENI a adopté la machine à imprimer des bulletins de vote, je ne veux pas l'appeler machine à voter, c'est parce que nous étions confrontés tous à l'épineuse question de moyens et nous avons estimé que la CENI devrait nous proposer les mécanismes devant nous permettre de réduire le coût des élections. Et donc, étant donné qu'il y a eu des suspicions sur cette fameuse machine, la CENI nous a démontré encore une fois qu'elle n'avait rien à cacher, parce que si on cache quelque chose, on ne voudra pas l'étaler au grand jour. Et donc, le fait que la CENI ait accepté cette étude indépendante et technique des machines faites par Westminster Foundation for Democracy démontre à juste titre que la CENI, elle est ouverte, elle est transparente. De deux, vous vous rappelez que quelques mois avant, nous avions eu l'audit du fichier électoral par l'OIF, qui aussi a formulé des recommandations. Ça veut dire donc que nous sommes dans la logique que la CENI doit nous organiser les élections les plus impartiales possibles et toutes les recommandations tendant à arriver à cela sont les bienvenus. Parce que je dois encore une fois vous rappeler que les conflits électoraux ou les contentieux électoraux que nous avons connus en 2011 n'étaient pas un contentieux électoral entre partis opposés. Souvent, c'était des contentieux entre les membres des mêmes partis politiques ou des mêmes familles politiques. Ça veut dire donc que tous les partis politiques de la République du Congo, qu'ils soient de l'opposition comme de la majorité, ont besoin des élections transparente et apaisée pour que chacun soit certain du vote qui a été exprimé par le peuple et du résultat qui sera communiqué, qui soit le plus transparent possible pour le bien de tous.
Oui, François Nzekouyé, lorsque cette fondation recommande de désactiver les communications externes via carte SIM et Wi-Fi, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'en analysant cette machine, cette fondation s'est rendue compte qu'il y avait interconnexion entre ces différentes machines?
Non, en fait, c'est dire tout simplement que le besoin d'utiliser le Wi-Fi et la SIM se retrouve qu'au moment soit du stockage des données ou du transfert des données. Or, pendant les opérations de vote, cette nécessité n'existe pas. Et donc, on estime qu'il est bon de les désactiver parce qu'il peut y avoir des interférences. Si il y a un Wi-Fi actif, il peut être piraté par quiconque. Et si il y a une carte mémoire ou une carte SIM dans la machine, elle peut probablement contenir des données qui ne seraient pas les bienvenues parce que la machine doit être ouverte avec des données zéro dans la machine. Et donc, c'est une preuve, de mon point de vue, de crédibilité ou de confiance, de mise en confiance des différents partenaires, que au moment du début de vote, il n'y aurait pas, comme on aime souvent le dire, des noms qui seraient pré-enregistrés dans la machine et qui pourraient de cette manière-là faciliter la fraude. Donc c'est une bonne mesure, à mon avis, que nous devons tous encourager pour rassurer les uns et les autres, pour que nous partions tous avec la même confiance sur la machine, de manière à ce qu'il n'y ait pas de suspicions inutiles, parce que je ne crois pas qu'il y ait des gens qui aient programmé la fraude.
Voilà, selon la CENI, cette machine n'est qu'une simple imprimante, n'est-ce pas, des bulletins de vote. Vous dites que s'il y a une SIM ou s'il y a un système Wi-Fi, c'est lors du stockage et des transferts des données. Et donc, cela veut dire que les machines seraient connectées à un serveur central qui pourrait être modifié, n'est-ce pas, par n'importe qui.
Non, ça ne devrait pas être modifié par n'importe qui. C'est pour cela d'ailleurs que il y a la mesure de précaution qui a été prise, selon laquelle les preuves de vote ne sont que les procès-verbaux manuels qui ressortiraient du comptage des bulletins de vote dans les urnes. En cas de divergence de vue entre les données transférées électroniquement et les données sur papier. Donc c'est une mesure de précaution. Et ces
procès-verbaux vont se baser sur quelles données? Les données contenues dans l'urne ou celles contenues dans la machine à voter?
Dans l'urne, en fait, il y aura deux procès-verbaux. Il y a un procès-verbal électronique qui est généré automatiquement à la fin de l'opération de vote et un procès-verbal rempli à la main après comptage des bulletins qui seront insérés dans l'urne. Et la loi a prévu, et les dispositions de la CENI, que c'est le procès verbal qui sera découlé des comptages manuels des bulletins de vote qui serait pris en considération en cas de divergence des chiffres entre les deux procès verbaux.
Voilà, les experts de cette fondation disent qu'ils n'ont pas certifié la machine à voter, mais plutôt ils ont fait une étude portant sur sa fonctionnalité. Et, honorable Nzeku, vous ne pensez pas qu'ils auraient fait dissiper le soupçon, ils auraient fait dissiper toute la méfiance s'ils étaient allés jusqu'à certifier cette machine?
Ben, ils n'en avaient pas apparemment le mandat. Je crois que la structure qui doit nous certifier.
Ils n'avaient pas les mandats ou ils n'ont pas été. On ne leur a pas autorisé à accéder à certaines données.
C'est moi ce que j'ai entendu. J'ai lu le rapport autant que vous. Je n'ai pas été avec la CENI. Encore une fois, ne me posez pas de questions auxquelles la CENI doit répondre. Je ne suis pas représentant de la CENI ici. Je suis un acteur électoral. Oui. J'ai compéti aux élections autant que l'opposition, autant que les indépendants. Je vous réponds aux questions telles que je les ai lues dans le document qui nous a été transmis à nous tous avec les cachets de la CENI.
Et vous ne pensez pas que ce qui importerait, c'est certifier la machine et non se limiter à une simple étude superficielle?
Si cela peut être fait, je n'y vois pas d'inconvénient. Ce que je vous dis encore une fois, Guy Maté, pour nous au PPRD, pour nous à la majorité présidentielle, pour nous au Front commun pour le Congo, nous voulons des élections libres, transparente et crédible. Toute mesure tendant à arriver à cela nous agrée. Mais nous ne devons pas non plus nous éterniser dans des études qui vont nous prendre du temps inutilement. On a tué nos compatriotes pendant des années ici pour les élections. On a fixé une date que les gens croyaient que nous voulions éviter.
Merci.
Nous avons accepté la date. Allons aux élections le 23 décembre.
John Colella, député national de l'opposition et porte-parole du groupe parlementaire UDPS et allié à l'Assemblée nationale. Et comment vous analysez la démarche de cette fondation Westminster sur la machine à voter?
Oui, merci beaucoup. Vous avez constaté les difficultés avec lesquelles nos amis de la majorité sont en train de répondre à vos questions. Parce que, si vous lisez bien, commençant par le rapporteur de la CENI, il a bien commencé pour dire que l'idée est venue de l'Église catholique qui a demandé à ce qu'on puisse certifier cette machine. Mais il ne trouve pas ce terme-là certifié quelque part. Je ne sais pas où est-ce qu'il a cherché, dans la Constitution, dans les lois ou dans quel document. Mais je ne sais pas où non plus il a trouvé le terme de vérifier la fonctionnalité de la machine. Parce que ça aussi, ça ne se trouve nulle part. Vous avez bien posé une question de savoir que on aurait dissipé les doutes si on arrivait à faire une étude approfondie dans le sens de dissiper le malentendu ou le doute, parce que toutes les recommandations de cette ONG prouvent noir sur blanc que l'opposition avait raison d'avoir le doute d'accepter la machine. Parce que le fait de vous dire que on doit réduire les risques de l'utilisation de la machine en élaguant certains éléments. Je pense que cela prouve à suffisance que l'opposition n'avait pas tort et que la machine n'a pas été seulement constituée pour être une imprimante, mais elle a d'autres fonctionnalités en plus d'être une imprimante, parce qu'une imprimante n'a pas à envoyer à l'externe d'autres éléments de vote. Donc, au moment où nous parlons, tant qu'on n'a pas encore fait cela, donc la machine n'est pas une simple imprimante, comme veulent l'appeler nos amis de la majorité, mais elle a d'autres fonctions en plus de cela, et ces fonctions-là permettent à ce qu'il y ait tricherie. Donc, ça c'est confirmé. Mon co-débatteur honorable Françoise Zikouye vous a dit que la CENI est l'institution qui doit assurer la permanence des élections et du référendum, certainement. Il a aussi dit qu'il doit prendre des mesures de sorte qu'on puisse nous organiser les élections apaisées. Mais ici, aujourd'hui, nous sommes ensemble avec lui. Cette question de la machine à voter n'est pas une question qui apaise la population. Parce que la CENI n'a pas à nous imposer une machine selon sa propre volonté, alors que la machine n'est prévue ni par la loi, ni par le calendrier que la CENI elle-même nous a donné. Donc vous comprenez que la machine est venue tomber comme le cheveu dans la soupe. C'est à peine il y a quelques mois que le jargon des machines à voter est entré dans le vocabulaire électoral de notre pays. Tous ces jours ici, avant 2016, on n'en parlait jamais. Au dialogue de la cité de l'Oyoua, on n'en a pas parlé. Au dialogue de la Saint-Sylvestre, on n'en a pas parlé. Dans les calendriers donnés, on n'en a pas parlé. Mais comment aujourd'hui, on doit venir nous imposer un instrument que tout le monde est en train de douter? Je dis que douter, c'est un droit des uns et des autres. Parce que les élections, c'est une question de confiance. Et la machine à voter, si vous voulez très bien l'analyser, il ne faut pas analyser la machine par elle-même. Il faut la mettre dans un contexte. Nous sommes dans quel contexte? Nous sommes dans le contexte du pays qui a déjà passé des années de retard pour les élections à organiser. Nous sommes dans le contexte d'un pays où il y a la suspicion des uns et des autres envers l'institution même organisatrice de ces élections. Nous sommes dans le contexte où les fichiers électoraux n'inspirent pas confiance. Il y a environ un quart des électeurs qui manquent certains éléments importants pour leur identification. Nous sommes dans un contexte où il y a un CENI, il y a le poste qui revient à certaines composantes, mais qu'on ne le respecte pas pour qu'il puisse y accéder.
Et selon vous, le recours à cette machine ne serait pas une mauvaise chose si on était dans un autre contexte que celui-ci, que celui dans lequel nous nous trouvons actuellement?
Je ne dis pas seulement cela parce que les problèmes de la machine ne sont pas seulement les problèmes internes à la machine elle-même par rapport aux recommandations données, mais aussi il y a les problèmes exogènes à la machine. La population elle-même, l'accès à la machine, est-ce qu'elle saura utiliser cette machine-là? C'est aussi ça le problème, parce que on peut dire que non, une personne peut faire 6 minutes ou 3 minutes, ça dépend de celui à qui on a déjà expliqué pour y accéder. Mais est-ce qu'a-t-on enseigné ou appris à tous les 40 millions d'électeurs comment accéder à la machine et comment le faire? Parce que environ 80% de notre population sont des analphabètes donc en informatique. Donc, nous disons qu'il y a un problème sérieux. Le problème de la machine reste encore patent tant qu'on n'a pas encore certifié la machine et tant que nous ne sommes pas d'accord pour nous rassurer. Le fait que le résultat peut différer entre la machine et le manuel, c'est déjà ça le nœud des problèmes. Comment les résultats peuvent différer déjà? Voilà. Donc, le problème reste encore là et il faut faire un effort parce que la majorité, elle est d'accord pour aller aux élections avec ou sans machine. L'opposition est d'accord pour aller aux élections sans machine. Donc il y a un point commun, c'est d'aller aux élections sans machine parce que tous les camps sont d'accord et Nanga ne peut pas, ou la CENI ne peut pas imposer sa propre volonté à la société parce que sa responsabilité, c'est de nous engager dans les élections qui seront un moment de paix, de retrouvailles et de sourires et non pas un moment où il n'y aura plus la paix, étant donné que la population est en train de trimer.
Selon le rapporteur de la CENI, sur les 15 recommandations, la CENI a déjà pris en compte plus de 10, notamment celles qui demandent à la CENI, n'est-ce pas, de s'assurer de la présence des témoins des partis politiques dans chaque bureau de vote lors de l'installation de cette machine. Honorable Kolela, c'est un défi que l'opposition doit relever, avoir des témoins dans chaque bureau de vote, parce que, bon, on reproche à l'UDPS de ne pas être à mesure de déployer des témoins dans les bureaux de vote. Et là, on s'est référé, n'est-ce pas, aux élections de 2011. Est-ce que vous y travaillez actuellement?
Nous travaillons comme on a travaillé aussi autrefois. Le premier témoin pour nous, c'est lui-même le rapporteur. Notre rapporteur doit être là, c'est lui notre premier témoin. Parce que les éléments qu'on va transférer par voie électronique, qui va arriver là-bas, qui va le surveiller pour nous. C'est pourquoi nous voulons remplacer d'abord lui-même le rapporteur. Et s'il est là, c'est par sa propre volonté et par la volonté de nos adversaires politiques. Et le premier témoin, si c'est lui, donc commençons par les remplacer. Ensuite, on va discuter des autres questions. Mais parce que lui est maintenu et soutenu par nos adversaires politiques, donc il y a Angoussou Roche. Donc nous disons, l'UDPS est à mesure d'avoir le témoin partout, mais cela ne suffit pas. Parce qu'il y a un quart, je parle bien d'un quart, des électeurs qui n'ont pas les éléments exigés pour être identifiés tant que tels. Qu'est-ce qui vous nous rassure que ce ne sont pas des militaires, des policiers ou des étrangers? Rien ne nous rassure.
Là, vous parlez des personnes qui se sont fait enrôler sans
empreinte digitale. Exactement. Non seulement eux, mais il y a aussi les enfants. On a vu les bébés qui se sont enrôlés.
La CENI a toujours estimé que c'est un problème anodin, dans ce sens qu'on peut retracer, on peut facilement identifier la personne qui n'a pas d'empreinte digitale à partir de sa photo.
Qu'elle le fasse maintenant pour nous rassurer, parce que ce n'est pas à nous d'aller le faire. Que la CENI le fasse de sorte qu'elle puisse corriger ce qui est à corriger. Nous disons qu'il y a des irrégularités à tout le niveau et qu'il faut corriger. Et de deux, toute la population n'est pas à mesure d'utiliser cette machine-là. Cette machine n'est ni dans la loi, ni dans le calendrier que la CENI elle-même nous a donné.
Et si toutes les recommandations formulées par cette fondation sont prises en compte, est-ce que l'opposition va accepter d'aller aux élections avec cette machine à voter?
Ça ne nous rassure pas toujours parce que je vous ai dit qu'il y a des raisons exogènes à cette machine qui peuvent aussi influencer. Et de trois, on ne peut pas aller faire une élection ou trois élections le même jour de grande importance avec une machine où on est en train de faire l'expérience, une expérience scientifique. Parce que nulle part on a utilisé cette machine, merci. Elle n'est pas encore certifiée, on ne peut pas prendre ces risques-là.
Merci Jérôme Bonson, président de la Ligue nationale des élections libres et transparentes, l'INELIT en sigle. Vous êtes aussi coordonnateur de la plateforme Agir pour des élections transparentes et apaisées à État. Quelle analyse vous faites, n'est-ce pas, de la démarche de cette fondation britannique Westminster?
Merci cher ami Guy Maté. J'ai été le témoin privilégié dans la salle de la Cinco lors de la publication de cette étude par cette fondation britannique. Et pour votre information, j'ai travaillé une longue séance de travail avec cette fondation 2 mois avant qu'elle soit invitée par la CENI pour faire l'étude sur la faisabilité, la fonctionnalité de la machine à voter. Et après publication de du rapport de son étude, dans la salle, il y avait 2 camps. Et nous avons constaté le camp pro-machine à voter et le camp anti-machine à voter. Et au départ, nous avons constaté que tous les deux camps avaient apprécié les 15 recommandations formulées par l'étude de la firme britannique. Tous les deux camps ont constaté, et surtout le camp anti-machine a découvert certains éléments qui, à l'œil nu, n'allaient pas s'en sortir pour savoir, par exemple, le cas de Wi-Fi et de SIM. Et le cas de boucher certains postes extérieurs à la machine. Et tous les deux camps ont apprécié ce travail, chacun à sa manière. Mais l'étude elle-même a donné ce qu'on appelle une valeur, une rationalité et valeur ajoutée à la machine. Parce que quand le débat s'est posé sur la certification de la machine à voter, quand nous avons été avec nos amis de l'OIF sur l'audit du fichier électoral, chaque famille politique avait envoyé ses experts. Et ces experts n'avaient pas de tableau de bord, n'avaient pas des indications techniques au départ. Mais ici, nous nous trouvons, à partir de cette étude, qui se décrit, l'étude, le rapport qui se décrit comme, décrit les fonctionnalités des machines et les principaux dispositifs de sécurité. Ça, c'est le cadre de l'étude sur l'usage de la machine à voter. Et ça a donné ces informations. Ces informations continuent dans les recommandations et qu'on demande, selon l'étude, atténuer le risque. C'est que toute nouvelle technologie électorale, comme le cas de la machine à voter, entre dans le domaine de l'inconnu. Quand on est devant l'inconnu, on doit avoir suffisamment autant d'informations sur le mode de fonctionnement de cet inconnu, de cette machine.
Alors, lorsque cette ONG recommande de désactiver les communications externes via carte SIM et Wi-Fi pendant la tenue de l'opération électorale, vous, en tant qu'expert, qu'est-ce que cette recommandation vise?
La recommandation vise la la transparence même des opérations électorales. Parce que le problème se pose à quel niveau? C'est au niveau de la transmission des données, des résultats. D'un coin à l'autre, il faut se munir de toutes les précautions avant, pendant et après les opérations électorales. Parce que pendant l'opération électorale, on peut introduire certaines données dans la machine. Mais c'est de là où le camp anti-machine devait capitaliser pour dire comment nous pouvons nous approprier de ces 15 recommandations, parce que ces recommandations parlent de recommandations et actions correctives sur les aspects des procédures et des opérations électorales. À ce moment-là, nous pouvons s'en sortir. Mais si aujourd'hui, le pro-machine dit nous devons aller aux élections avec la machine, les anti-machines disent nous devons aller aux élections sans la machine, et il y a un vide. Et ce vide organisationnel, ce vide planificationnel des opérations électorales va nous créer un vide.
Alors, vous avez suivi l'honorable Nzekouye qui parle et qui dit qu'on recourt, n'est-ce pas, à la SIM ou au Wi-Fi lors du stockage et des transferts des données. Et, monsieur Bonsoy, il s'agit là, n'est-ce pas, d'une machine, d'une imprimante à imprimer, n'est-ce pas, les bulletins de vote. Et, est-ce qu'il faut nécessairement recourir au Wi-Fi? Il faut nécessairement recourir à une SIM? Est-ce que c'est pas une façon de dire que cette machine est connectée à un serveur dont les données peuvent être modifiées, n'est-ce pas, à n'importe quel moment?
Oui, si tel est le cas, on bloque les communications, la transmission des données au serveur par le cas de débrancher le Wi-Fi et 4 SIM. On bloque, et c'est ça ce qui entre dans les stratégies organisationnelles du camp anti-machine. Et à ce moment-là, si on se met d'accord, on dégage un consensus pour dire nous devons nous surveiller mutuellement. Moi, j'avais observé les premières élections multiraciales en Afrique du Sud. Et les machines étaient piégées. Mais qui avait fait découvrir que les pièges dans la machine? C'est un expert hollandais. Et là, la classe politique ensemble s'est mis d'accord pour dire nous devons surveiller. Quand vous prenez la recommandation 10 et 11, où on demande les témoins lors de la distribution de la machine, si on demande les témoins de suivre les procédures, c'est l'encadrement, c'est l'appropriation même du processus et de l'outil même technologique électoral. Et si nous allons encadrer, ok, moi je n'influence pas le pro d'accepter de continuer à soutenir la machine, je n'engage pas les anti-machines de continuer à rejeter, mais quel est le juste milieu au regard de 2 mois qui nous restent pour que tout le monde ait à l'unisson, nous devons aller aux élections à la date du 23 décembre 2018. Mais avec ce débat, et on ne donne pas encore une marge de manœuvre au pouvoir organisateur des élections pour quelle option, soit la machine, on introduit des correcteurs, le facteur correctif pour le machine est contenu dans les 15 recommandations, soit on jette, mais le temps qui n'est pas avec nous, est-ce que nous serons en mesure de nous en sortir?
Voilà, un autre problème qui est posé par certains experts, c'est celui de savoir qui détient les codes d'ouverture ou de fermeture de la machine à voter.
Oui, ça se dégage lors de l'ouverture des opérations. C'est comme on ouvre le bureau.
Qui détient les codes?
Qui détient les codes? Les codes sont détenus. Si c'est au niveau de la machine, celui qui va ouvrir avec le président du bureau de vote, voilà les codes d'ouverture avec une carte. La carte rouge qu'on ouvre, cette carte-là est connue et ça doit être acté dans le procès verbal. À remettre aux témoins des partis politiques, à remettre aux observateurs, et les codes sont connus. Eh bien, ce n'est pas au niveau des codes qu'on triche, c'est au niveau des transmissions des résultats des données.
Voilà, cette étude démontre aussi qu'on n'a pas délimité le nombre de bulletins de vote. Cela veut dire que officiellement, on peut fermer un bureau de vote à 18 heures. Mais les votes vont continuer à se faire autrement parce qu'on n'a pas délimité, on ne connaît pas le nombre de bulletins de vote qui seront utilisés ces jours-là.
Non, c'est acté dans le rapport. On doit aller aux 600 bulletins de vote. Mais les standards internationaux...
C'est l'autre chose, on n'a pas délimité.
Si, 600, ça ne doit pas dépasser 600. Mais dans les 600, on doit
ça,
avoir...
Ça, c'est la norme internationale.
Oui, non.
Mais l'étude dit que ici, en agressé, on n'a pas délimité le nombre de bulletins de vote.
Comme le cas est, nous nous trouvons devant un cas précis,
donc on va corriger.
Nous allons sur les 600, et les 600, nous devons avoir les 10% de 600, 660, et qui vont être contrôlés au départ. et quand on ouvre et quand on clôture le bureau de vote, à ce moment-là, nous allons renaître en nous, c'est-à-dire les parties prenantes, majorité ou opposition, et la confiance dans le processus électoral, pour que ce processus électoral puisse aboutir à des résultats acceptables et à des résultats que les uns et les autres puissent recourir à la victoire, à la courtoisie électorale où le candidat perdant présente les félicitations au candidat gagnant. Merci. Et c'est la démocratie qui en sortirait grand.
François Zekouye, vous allez suivre vous allez réagir, n'est-ce pas, à cette réflexion qui vient de Kinshasa.
Yasni Mayaga, depuis la commune de Limete Funa à Kinshasa. Je salue le travail de cette fondation dont les recommandations confirment l'existence des procédés maléfiques délibérément orchestrés par la CENI qui, sans surprise, fait le jeu du pouvoir en place. Dorénavant, je propose que cette machine soit abandonnée, car la CENI, qui ne pourra plus recourir à son fournisseur pour la désactivation faute de temps, n'est pas disposée à accéder à cette indispensable recommandation au risque de désobéir à son calendrier. D'où la nécessité d'en aborder autour d'une table.
Honorable François Zekouye.
Oui, je comprends la préoccupation de votre auditeur, mais quand on dit que on doit désactiver un port USB ou qu'on ne doit pas mettre une carte SIM, rien ne prouve que ces accessoires contiennent des données dedans. Mais il est possible, comme dans tout processus électoral.
Mais cela veut dire qu'il y a interconnexion.
Non, ce qu'on dit, il peut avoir...
La fraude peut se passer à ce niveau-là.
Non, il faut encore que on ait un logiciel qui soit compatible avec celui qui est sur la machine. C'est tout des tas de choses compliquées. En fait, ce sont des hypothèses. Mais pour pouvoir rassurer, on estime que...
Et cela aurait été l'objet, n'est-ce pas, de la certification.
Non, malheureusement, ça n'a pas été fait. Nous disons, on évite toute hypothèse. Même la plus subliminale, qui puisse permettre aux gens de douter de cette machine. Mais je dois répondre aussi à notre collègue Olela, qui dit que la machine n'est prévue nulle part. Mais quand nous lisons le point 4 de l'accord de la Saint-Sylvestre, il est dit ceci. Au sujet du financement des élections, et sans porter préjudice aux articles 6 et 52 de la loi organique de la CENI, les parties prenantes recommandent au gouvernement, entre autres, d'explorer les voies et moyens de rationalisation du système électoral pour réduire les coûts excessifs des élections. C'est une volonté commune de l'opposition, de la majorité civile présente à l'accord de la Saint-Sylvestre.
Volonté commune, ça veut dire la machine est rejetée par
non, ce que nous disons, il rejette la machine tout en acceptant la rationalisation. Si vous acceptez la rationalisation...
J'ai le calendrier électoral avec moi ici,
s'il vous plaît, Guy
Maté. Le calendrier électoral qui parle, n'est-ce pas, des bulletins de vote à partir du 20 septembre.
Oui, ce que nous disons, est-ce que dès lors qu'on a mis le calendrier électoral et qu'on se rend compte qu'il y a un mécanisme qui peut rationaliser davantage les élections sans pour autant en avoir des conséquences négatives, pourquoi ne pas l'explorer? Parce qu'il y a un mandat qui a été donné au gouvernement quant à ce. Le problème serait effectivement qu'il y ait des preuves que cette machine comporte des risques réels de fraude. Or, jusque-là, même la fondation Westminster Foundation n'a pas dit clairement que la présence de tel ou tel outil entraînerait nécessairement fraude. Non, ils ne l'ont pas dit. Ils disent, pour rassurer, pour éviter des soupçons, il est mieux que l'on puisse enlever tel ou tel outil.
Que répondez-vous à ceux qui pensent que cette fondation a utilisé un langage diplomatique et n'a pas voulu, n'est-ce pas, jeter de l'huile au feu et que en formulant ces 15 recommandations, c'était une façon pour la fondation de dire que l'usage de cette machine ne garantit pas la transparence dans les processus électoraux.
Je ne crois pas, ce serait dommage pour une institution qui a eu cette opportunité de nous aider à voir toutes les failles possibles de la machine, d'avoir un langage diplomatique. Encore que je ne crois pas que ce soit des politiciens. C'est une institution d'appui à la démocratie et qui, à mon avis, a tendance à avoir plutôt un langage tranchant. Donc moi, je crois sincèrement aujourd'hui que nous devons nous rassurer mutuellement et comprendre que les rapports qui viennent d'être faits ici La CENI vient de nous dire que sur les 15 mesures qu'ils ont préconisées, 10 sont déjà prises en compte. Vous avez posé la question à mon collègue ici sur la présence des témoins dans les bureaux de vote. Et au moment de l'enrôlement, il n'était pas là. Au moment des dépôts de candidature, il n'était pas là.
Mais est-ce que la majorité
aujourd'hui,
a déployé des témoins
nous avons déployé
des
témoins dans presque tous les bureaux de vote. D'accord. Et vous avez vu la formation de témoins que nous avons organisée encore il y a quelques jours pour vous dire que nous sommes prêts à avoir des témoins dans tous les bureaux de vote.
Merci, honorable John Colella. Il y a une réflexion à laquelle vous allez réagir. C'est celle d'Emmanuel Kandeke.
C'est Emmanuel Kandeke de Pigoma. Le mal est que la RDC trouve que les recommandations émises par des partenaires est une ingérence, alors que c'est pas le cas. Au contraire, cela permettrait à 80% de rendre le processus électoral crédible et transparent et apaiserait les esprits de ceux qui pensent que les élections sont perdues d'avance. D'où la nécessité de prendre en compte ces recommandations.
Oui, honorable John Colella.
Je remercie notre auditeur qui vient de poser la question. Nous avons dit que nous capitalisions les recommandations, mais cela n'est pas suffisant pour nous faire changer la position vis-à-vis de la machine. Donc, il y a d'autres choses plus importantes que toutes ces recommandations. C'est ici l'occasion en même temps de répondre à mon aîné François Zécouillé, parce qu'il dit ici qu'il y a des recommandations et que l'opposition devrait y prendre part. Bon, nous disons ceci. Si l'ONG n'a pas donné les choses clairement, c'est aussi une des raisons parce qu'elle n'a pas fait une étude en profondeur pour certifier, aussi longtemps que l'étude est superficielle. Aussi que longtemps l'étude n'a pas été en profondeur, c'est normal qu'ils disent les choses avec un langage diplomatique parce que ne sachant pas ce qui devrait aboutir, s'ils devraient étudier les choses au fond pour toucher les sensibilités. Nous disons qu'à la question de savoir par rapport aux témoins, nous avons les témoins partout et notre premier témoin, c'est le rapporteur de la CENI que nous voulons remplacer pour que ce soit un témoin qui soit de notre obédience et qui doit voir les choses en notre nom pour communiquer tout ce qu'il y a. Parce que vous connaissez bien les responsabilités qui reviennent au rapporteur de la CENI dans cette affaire. Aussi longtemps que ce poste-là est pris en otage par nos amis de la majorité, c'est que la procédure où le processus électoral est déjà biaisé. C'est ici nous rappelons encore que nous mettons tout cela dans un contexte. Donc la tricherie ne se prépare pas uniquement par la machine, mais c'est par plusieurs autres facteurs qu'on a déjà mis en marche pour aboutir à ces chaos-là.
Oui, au-delà du rapporteur de la CENI et que vous voulez voir être remplacé, est-ce que vous travaillez sur les témoins dans les différents bureaux de vote?
Exactement.
Est-ce que cette fois-ci, l'UDPS va relever ce défi qu'elle n'a pas pu relever en 2011?
C'est vrai, nous sommes un parti, c'est vrai qu'il peut y avoir des faiblesses, mais je peux vous assurer que le travail s'est fait dans chaque circonscription. Nous avons des témoins qui sont en pleine préparation et au moment des votes, ils seront là. Mais le problème, ce n'est pas qu'ils seront là uniquement dans le bureau, mais le problème, c'est aussi la transmission. Donc, les contrôles doivent être tous azimuts et à tout le niveau. Quant à la préparation, je peux vous garantir que cette fois-ci, mieux qu'autrefois, l'UDPS sera présente.
Jean Monceau, vous allez réagir à ces commentaires qui viennent de Colosi.
Professeur, il y a de la psychologie dans le Lualaba. Je pense que nous devions en toute sagesse, je pense et élégance, recevoir les propositions formulées comme conseil, d'ailleurs sans couleur politique. En supprimant la machine, l'impression de bien prévu est restituée la charge du contribuable. Que coûterait cette impression? C'est pourquoi la CENI recule le débat public proposé par certaines parties prenantes.
Oui, monsieur Jérôme Brosseau.
Merci, professeur. Je suis d'accord avec vous qu'on doit recevoir les propositions formulées par la firme britannique, parce que c'est cette firme qui nous a donné les pistes, et ces pistes sont contenues dans les 15 recommandations. En recevant ces recommandations, c'est à nous, je suis d'accord avec Honorable John quand tu le dis, il faut capitaliser ces recommandations. Comment nous pouvons capitaliser ces recommandations au regard du délai qui nous est imparti, au regard du respect du rendez-vous du 23 décembre 2018 pour l'organisation des 3 scrutins, députation nationale, députation provinciale et l'élection présidentielle. Parce qu'aujourd'hui, nous assistons à un ping-pong électoral entre la majorité et l'opposition. Nous ne voyons pas de propositions concrètes pour que nous puissions nous en sortir. Et nous sommes encore là, au loin du bout du tunnel électoral dans notre pays.
Voilà, vous parlez, du délai imparti, vous voulez dire qu'il est aujourd'hui impossible de tenir compte de ces 15 recommandations.
Il n'est pas impossible. Parce qu'on vous dit qu'il y a 15 recommandations et que la CENI est en train de prendre des recommandations et des actions correctives ayant trait aux aspects de procédures et des aspects opérationnels. Et c'est à nous maintenant pour les capitaliser. Nous pensons que tous les deux camps ont des experts en informatique. On peut les prendre, les outiller, les machines, dès que les machines arrivent, avant que ça soit déployé dans des centres, dans des sites, qu'il y ait cette équipe-là technique qui puisse être témoin de vérifier, d'auditer le logiciel.
Et donc, vous voulez dire que l'idéal serait que les témoins, en fait, que chaque parti politique puisse déployer des témoins qui auraient, n'est-ce pas, des connaissances en informatique.
Mais c'est bien dit dans une des recommandations quand on doit le faire en présence des témoins de partis. Ce sont des partis prenantes au processus électoral. On ne va pas envoyer honorable Dion Corinne, même honorable François Seguin, ils ne vont pas envoyer quelqu'un qui ne maîtrise pas l'outil informatique. On envoie les gens, même s'ils n'en ont pas, ils peuvent recourir à des cabinets, des spécialistes pour le faire. Ils peuvent payer tant bien que mal, ils peuvent payer pourvu que le processus électoral puisse être crédible. C'est ça notre souhait. Mais si aujourd'hui nous continuons à nous tirer, formation des témoins, formation des candidats, etc., nous avons la nette impression que les uns et les autres n'ont pas le corps à la tenue des élections à date du 23 décembre. D'où nous avons tout intérêt de les interpeller. Ils jouent à quel jeu?
Merci. Merci, honorable Zekouye. Nous sommes à la fin de l'émission. Nous allons commencer à conclure. Et à votre avis, qui peut trancher ces débats au sujet du recours à la machine à voter?
Seule la CENI peut trancher parce que la CENI est indépendante. Elle est investie de la mission d'organiser les élections et de choisir les instruments pour les faire. Et enfin, je dois dire quand même à mon frère John Collet, j'étais surpris d'apprendre que les rapporteurs et les représentants au niveau de la CENI, parce que les membres du bureau de la CENI et les membres de la plénière, dès qu'ils entrent en fonction, ils cessent d'avoir des influences politiques. Ils doivent être neutres. Alors je ne vois pas en quoi les rapporteurs de la CENI peuvent les aider d'une manière ou d'une autre dans le processus électoral, et je pense qu'ils veulent qu'ils trichent à leur faveur, ce qui serait très dommage. Les membres de la CENI sont indépendants des partis qui les ont envoyés à la CENI. Et donc, aujourd'hui, nous devons nous rassurer. La loi le prévoit, mais ils ne peuvent pas demander, par contre, qu'ils soient leurs témoins ou jouer à leur avantage, comme je l'ai si bien entendu de la bouche de mon collègue.
Cette question est inscrite à l'ordre du jour, avec au calendrier de cette session parlementaire.
Le calendrier de l'Assemblée nationale peut être modifié à tout moment quand il y a une nouvelle matière. Mm-hmm. À ma connaissance, ce n'est pas une question qui est inscrite à l'ordre du jour. Et donc, nous croyons que le peuple congolais doit faire confiance à la CENI et à la machine à voter pour qu'on ait aux élections le 23 décembre.
Honorable Kolela, comment trancher ces débats sur la machine à voter? Ça sera sur votre conclusion.
Oui, avant de conclure, je dirais qu'il ne faut pas me mettre sur la langue ce que je n'ai pas dit. Le rapporteur à la CENI vient du groupe parlementaire UDPS et allié, c'est connu de tous et c'est la loi qui le veut ainsi. Être là-bas, notre représentant ne veut pas dire aller nous faciliter la tâche, mais aller faire respecter la loi et aller faire respecter le résultat.
Et la solution par rapport à la machine à voter?
La solution par rapport à cela, c'est une question qui doit intéresser tout le monde. La CENI n'est pas là pour nous imposer sa propre volonté au moment où nous, les participants à ces élections, nous ne sommes pas d'accord avec une option levée. C'est une question qui intéresse tous les citoyens du pays et s'il y a des contestations, on doit écouter tout le monde.
Merci.
De sorte que les élections soient un moment de paix.
Merci. Jean-Bos, sur votre conclusion.
La CENI doit relancer les cadres de concertation avec les partis politiques pour capitaliser les 15 recommandations de la FIM britannique afin que le processus électoral puisse arriver au bon chemin.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Mimi Kindou qui était à la technique. Merci à Alain Hirung qui a réalisé cette émission sous la supervision de Pelé Kipela Mondo. À la présentation, Guy Maté. Merci à ce mercredi pour un autre débat. Et bonne suite au programme sur Radio Capi.